Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International et de la Radio Mondiale pour parler avec vous tous de football. Le jour d'après, le quatrième jour d'après, d'après la défaite, la déroute de l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions a consterné ses supporters et les observateurs. Quelles explications à ce non-match des interistes? Quelles traces laissera cette manita? Simone Inzaghi parti, est-il le seul à quitter le navire? Comment rebondir? Nous retrouverons Matteo Cioffi à Milan. La Nazionale est en piste pour disputer la Coupe du Monde 2026. Premier match éliminatoire, ce sera face à la Norvège. Les Italiens de Spalletti éviteront-ils que ces qualifications se transforment en chemin de croix? Leurs fantômes, ce sont ces deux no-show, ces deux dernières Coupes du Monde ratées. Disputée sans la Squadra Azzurra, va-t-elle mieux cette sélection en ce moment? Eux vont mal. Les joueurs de Manchester United ont conclu leur triste saison ou non-saison par une pathétique tournée en Asie. Et maintenant, ce grand club du nord de l'Angleterre est-il en danger? Bruno Constant, je suis sûr que vous avez la réponse. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Je tenterai d'y répondre.
Oui, bon ça, je compte sur vous quand même. Bonjour Hervé Penaud.
Mais bonjour, mais quel plaisir d'être en votre compagnie.
J'espère.
Et en revanche, moi, j'ai les réponses.
Vous avez les réponses. Si les gens vous écoutent, réponse à tout en fait.
Ah, hein. D'une certaine manière.
Vous avez pris des leçons avec le boss,
ça, Madame Annie. Ah, le boss était exceptionnel. Ouais. Un boss. Vous, on a eu les boss du PSG à Munich, mais le vrai boss
et
était à Marseille.
Et les buts, alors, vous les avez encaissés comment vous? Il les encaissait pas.
Oh non, lui, il n'encaisse rien. Il encaisse tout, plutôt, à son âge.
Oui, très bien même. Monsieur Philippe,
bonjour. Madame Annie, je me désespérais dans mon coin.
Vous avez un petit polo couleur terre battue, je trouve.
Ouais, ça se rapproche.
Il passe son temps.
Je suis très, très terre battue.
Il arrive de Roland-Garros, il a quelques couleurs.
J'ai fait une incartade, je suis allé à Munich, mais entre deux matchs à Roland-Garros.
Oh là là, quel privilège. Il lui dit ça comme ça.
Il lui dit ça, oui.
Lui est allé à Marseille, lui est allé à Munich. Bon, il y en a d'autres.
Springsteen chantait à Munich?
Et non.
Ah d'accord.
Mais non, a cappella.
Ah d'accord.
David Finzel m'a aidé à préparer cette émission et Laurent Salerno est à la réalisation fidèlement Radio Foot, c'est parti.
La notte per ricambiare tutto l'amore, tutta la fatica, tutta la passione di vedere 11 ragazzi con la maglia nerazzurra vincere.
Tiro la rete incredibile del 5-0 del Paris Saint-Germain, proprio con il nuovo entrato, un gol bellissimo dobbiamo dire. Paris Saint-Germain vince la Champions League, batte per 5-0 l'Inter, è stata una sfida senza storie.
Si les Parisiens, joueurs et supporters, sont encore sur leur petit nuage étoilé, où en sont les interistes, joueurs et supporters? Cet Inter de Milan nous avait tellement séduits et enthousiasmés au fil des matchs de 7 Ligue des Champions, meilleure défense jusqu'au fantastique demi-finale face au FC Barcelone. Et puis, cette finale où ils sont passés à côté, humiliés par un score inédit de 5-0, une manita sans appel. Que s'est-il passé? Le latéral néerlandais Denzel Dumfries a tenté d'expliquer cette finale cauchemardesque.
Je pense que dès le début de cette finale, nous ne méritions pas de gagner. C'est très dur parce que nous sommes venus ici pour nous venger de la finale perdue il y a 2 ans face à Manchester City. Et du coup, nous ne sommes pas rentrés dans ce match. Nous devons l'accepter. C'est très difficile de trouver les mots justes pour décrire ce qui s'est passé. Nous savions que Paris était très fort. Nous n'avons pas vu, hélas, l'Inter que l'on voulait voir. L'Inter que nous avons été tout au long de ce parcours. Nous devons l'accepter. C'est très difficile. Mais nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble.
Ils ne sont pas entrés dans le match, dit-il Denzel Dumfries. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Matteo, quelles sont les raisons qu'on invoque ou qu'on avance du côté de Milan? Peut-on parler par exemple aussi de fatigue physique, voire mentale?
Oui, tout à fait. Il faut dire que tout d'abord, injustifiable, incroyable sont les mots qui résument la pensée de l'opinion publique italienne après cette débâcle cuissante de l'Inter. Bon, allez, il doit y avoir aussi des raisons autres que la supériorité objective de l'adversaire. J'essaye d'en lister quelques-unes. Alors, vous l'avez dit, tout d'abord, l'équipe Nerazzurra est arrivée à Munich fatiguée après avoir disputé de nombreux matchs, dont quelques-uns qui ont comporté un énorme effort physique, surtout en Europe. On peut donc imputer la large défaite de samedi soir à un groupe qui a lourdement payé son âge moyen, 29,1, qui fait de l'Inter une des équipes les plus âgées de la Ligue des Champions. Et puis, c'est ce point faible qui est apparu aussi net, de façon si claire en attaque, car en excluant le duo Thuram-Lautaro, les deuxièmes lignes en dessus, Arnautovic, Correa et Taremi ne se sont presque jamais montrés à la hauteur. Du point de vue tactique, on a du mal aussi à comprendre pourquoi l'équipe de Simone Inzaghi s'est acharnée à construire des actions commençant par les bas et sont presque jamais réussi à sortir le ballon vers le milieu de terrain, choix qui n'a pas tenu compte du pressing très haut et intensif des Parisiens qui s'est révélé un énorme problème pour Yann Sommer et ses défenseurs.
Oui, on a bien vu que le PSG avait repéré notamment cette faille. Philippe, vous qui étiez donc à Munich, profitons-en. Mais qu'est-ce que vous avez perçu de cette faillite? Parce que certes, il y a un 5-0, mais il y avait aussi une telle, je sais pas, peut-être presque absence de l'Inter Milan dans ce match.
Oui, moi j'ai eu le sentiment au début de match qu'ils ont voulu un peu enterrer le ballon, qu'ils ont voulu un peu faire entraîner le match vers quelque chose que eux connaissent bien et qui aurait pu gêner le Paris Saint-Germain. C'est un match où ça bouge pas beaucoup, où c'était à 0-0, où c'est tendu, où on se livre pas du tout, on prend aucun risque.
Et on s'observe. Oui.
Et je pense que ça s'est retourné contre eux parce que plus ils gardaient le ballon entre Acerbi et Sommer, plus ils s'enterraient et plus finalement ils perdaient le ballon avec une vitesse sidérante. Et du coup, ils se sont retrouvés. Je pense que ça a inversé, si vous voulez, leur façon de faire. Après, le PSG marque quasiment sur ses deux premières actions. Et là, à 2-0, tout d'un coup, bon, on peut juste leur accorder qu'entre la 30e et la 60e, ils ont essayé, vaguement. Mais la première demi-heure est catastrophique. La dernière, bon, c'est... n'en parlons même pas.
Ils ont rendu les armes déjà.
Au troisième but, ils ont arrêté, ce qu'on peut comprendre, parce que c'était fini. La finale était effectivement finie. Mais malgré tout, pour l'image du club, si on fait ce sujet aujourd'hui, c'est que même à 3-0, on ne finit pas un match comme ça. Quoi. C'est pas possible. Ça veut dire que, effectivement, mentalement, là, il y avait une faille totale.
On a bien vu que l'arbitre a voulu arrêter les hostilités au plus vite.
Hein.
90 minutes et une seconde. Là, on n'a pas eu de 95e.
Ce qui peut se comprendre.
Oui,
ce qui pouvait se comprendre.
Bon, mais Hervé, vous n'avez pas vu la finale?
Si, bien sûr que si, je l'ai vu. Ah, bah quand même. Vous savez, je suis un professionnel. Je suis un professionnel. Jusqu'au bout des ongles. Et l'avantage du différé, par contre, vous pouvez se passer en arrière. Parce qu'il y a des moments, je voulais comprendre. Parce que ça paraissait tellement invraisemblable. Mmh. Et j'ai parlé notamment à Karim Baldé, qu'on connaît bien ici, hein, parce que de temps en temps, il passe. Et lui, il était au match et il avait la chance d'être en bord terrain. Mais il m'a dit, mais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, à Cherby, il ne pouvait même plus courir. Tellement il était fatigué. Alors, je veux bien qu'il y ait eu un pressing intense des Parisiens en début de match. Il y a eu un pressing, mais enfin, classique. Au bout de 20 minutes, de plus rien avoir dans les chaussettes. Alors, ça m'a rappelé une phrase que m'avait dite Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille, il y a à peu près 3 semaines. Après un match, c'était donc avant même qu'il soit qualifié pour la finale, hein, l'Inter, m'a dit, t'as entendu ce qu'a dit Inzaghi là récemment? Je dis non. Et bah, il a dit, il n'a jamais vu des joueurs dans une équipe être à ce niveau-là, mentalement épuisé et physiquement épuisé. Donc en fait, ça disait tout de ce qui allait se passer sur leur fin de saison, d'une certaine manière.
Et c'est-à-dire dans ces 40 derniers jours, après défaite à Bologne, après la défaite
même,
en Coupe.
Alors
après,
ça devait être peut-être un moment de Brest ou quelque chose comme ça.
Après la demi-finale, en tout cas.
Je crois que c'était avant la demi.
Les demi ont été un contre-exemple pour Genesio, alors.
Ils
étaient déjà fatigués.
Ils étaient déjà, ce que je veux dire, ils sont allés au bout du bout du bout de ce qu'ils pouvaient donner. Parce qu'ils s'en sortent bien quand même en demi contre Barcelone, faut pas l'oublier non plus. C'est quand même un peu.
C'est
pas miraculeux, mais bon. Allez, disons qu'ils s'en sortent bien.
Une sorte de miracle. Arraché avec la volonté, mais une sorte de miracle.
Et au bout d'un moment, quand vous n'en pouvez plus, bah, c'est difficile, mais vous n'en pouvez plus. Et là, les moindres pressings, ils étaient en difficulté, et comme l'a dit, comme l'a bien dit Philippe. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez un plan de jeu, mais vous ne pouvez même plus en changer, parce qu'ils étaient tellement
bah oui, c'est ça qui était
plus là-dessus. Mmh. Oui, mais quand vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus. Hein. C'est le sport de haut niveau aussi. C'est rare à ce niveau-là, c'est très rare, mais c'est rare aussi que des joueurs aient joué autant depuis 2 ans, par exemple, et puis ils vont continuer d'ailleurs à jouer un petit peu. Là.
Bah, c'est ça, ils ont joué. Par rapport au Napoli, par exemple, avec qui ils étaient la lutte pour le titre, ils ont joué 19 matchs de plus. 19 matchs, c'est une demi-saison en plus par rapport à leur adversaire direct en Serie A. Et à un moment donné, ça pèse. Et puis en plus, la Serie A, la lutte pour le titre, c'est pas la Ligue 1, le PSG qui survole complètement.
Bah oui, là, PSG, ça a été une bagarre jusqu'à la dernière
journée.
Le
PSG, ils peuvent faire tourner sur les matchs de championnat, voilà, leur meilleure équipe sur la Ligue des Champions. L'Inter, ils ont quasiment la même équipe, à quelques unités près.
Mais alors pour vous aussi, Bruno, c'est plus physique que mental.
Pour moi, en tout cas, c'est pas l'âge, parce que je regardais et la stat était tombée. Ils sont à 30 ans et 242 jours sur la finale. Le Milan en 2007, ils gagnent la Ligue des Champions. Ils ont 31 ans et 35 jours de moyenne d'âge. Et l'Inter 2010 de Mourinho, il est à 30 ans et 91 jours. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Mais pour moi, c'est la fatigue ouais, et un adversaire.
L'épuisement, alors.
Oui, d'épuisement mental, physique.
Aussi bien mental.
Parce que le
triplé,
physique. Courir après le triplé, et d'ailleurs, ils finissent avec rien.
Mais oui.
C'est surtout mental, en fait. Le fait de rater en plus des... C'est Guardiola qui disait, avant la finale de 2021, il avait perdu 3 fois de suite contre Chelsea, le Chelsea de Tuchel. Et quelque part, mentalement, ça les avait touchés. Et ils ne savaient pas contre qui ils allaient en finale. Ils retrouvaient le Chelsea de Tourelle et ça les avait atteints mentalement. Et ça les semait le doute. Et à un moment donné, ils n'avaient plus l'énergie pour renverser ce match-là. Et on a un peu senti la même chose. Même si pour moi, la principale raison, c'est l'adversaire.
La qualité
le
de l'adversaire.
PSG.
Ah, bah,
le PSG,
évidemment.
Ils poussent tout seul physiquement.
Non, bien sûr. Mais ils avaient joué. Ils avaient peu joué dans le match entre la demi-finale et la finale. Eux jouent peu. Ils partent même en vacances. Hein, on en avait parlé.
Au PSG.
Oui. Alors que justement, les Italiens se battaient encore.
Non, parce qu'ils avaient la finale de la Coupe quand même.
On a 5 des cadres qui sont partis en vacances. On a Hakimi qui se promène dans le désert.
La 38e journée, il y avait pas. Oui, ils jouaient pas.
Mais on regarde Dembélé, j'ai vu.
Mais ça fait deux mois que le PSG ne jouait plus sérieusement que la Coupe d'Europe.
Quasi,
j'allais dire quasiment
champions.
Un an qu'on regarde le temps de jeu de certains cadres. Hmm. J'ai vu Dembélé, à un moment, il doit être en combien en Ligue 1, 60 et quelques pourcents de temps de jeu. Enfin, c'est rien au niveau d'un joueur comme Dembélé. Ouais. C'est pas grand-chose.
Mais je pense, pour faire juste un aparté sur le PSG, parce que ce n'est pas le thème du jour, une des plus grosses performances du staff, bon, tactique, tout ça, on a très bien, tout le monde en a parlé. Pas un blessé de l'année. Ouais. Ils n'ont pas eu un blessé de l'année. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un effectif, à part une entorse de Zaïre Emery qui lui a coûté 2 semaines.
Une légère alerte
pour Dembélé qui lui a coûté 2 semaines. Okay, mais et encore, par précaution. Incroyable. Une saison complète sans aucune blessure. Alors, c'est à la fois des jeunes, très bien, voilà, mais aussi
mais
une préparation,
gestion,
une gestion de l'effectif
et une préparation
remarquable,
chance,
à l'évidence.
Et la part de chance.
Et la part de réussite aussi, parce qu'il peut y avoir des accidents. Exactement.
Mathéo, et sur le plan, alors Bruno l'évoquait, sur le plan de l'image pour le club, est-ce que c'est quand même c'était une sacrée défaite. 5-0, c'est historique parce que ça n'avait jamais eu lieu. On a déjà eu des 5-3, on a déjà eu des 4-0, mais 5-0, est-ce que c'est une tâche sur le maillot, alors Nerazzurro ou peut-être le maillot jaune, puisque en l'occurrence, il n'avait pas le maillot habituel.
Ouais, c'est quelque chose de terrible. 5-0 au final, on l'avait jamais vu. Et vous pouvez bien imaginer les supporters de l'AC Milan, ici à Milan, pourquoi maintenant, aujourd'hui, ils sont encore en train de sourire, même s'ils ont vécu un cauchemar de saison. Ils pouvaient pas rêver de mieux de voir leur éternel rival se faire vraiment piétiner de cette façon. Là, maintenant, je demande qu'est-ce qui restera de Simone Inzaghi après ce match. Et honnêtement, réduire les 4 années du technicien à l'Inter en un seul match serait, à mon avis, injuste pour lui. Lui qui a tout de même su remporter un titre, arrivé 2 fois en finale de la Ligue des Champions, outre avoir remporté un Scudetto, 2 Coupes d'Italie et 3 Supercoupes nationales. Mais il est également vrai qu'en ce moment, même aux yeux des supporters de l'Inter, et pas seulement à eux, il est perçu comme l'entraîneur qui incarne la plus grande défaite en finale de la Ligue des Champions, une tâche vraiment qui sera difficile à effacer, restera indélébile, même si on choisit d'aller travailler très très loin, comme en Arabie Saoudite. Il y aura toujours cet écho dans la tête de Simone Inzaghi.
Bah oui, le malheureusement.
J'espère qu'on ne va pas réduire le travail de Simone Inzaghi à une défaite en finale de Ligue des Champions. Alors là, on est au bout du bout de moi, ce qui m'insupporte dans
Hervé,
le football.
C'est...
Il a quand même, il a fait deux finales de Ligue des Champions.
Non, mais évidemment.
C'est pas rien. Il a
mais
gagné
la dernière fois, et on l'avait dit ici, il était ressorti de cette finale la tête haute. Parce qu'ils avaient perdu 1-0 contre Manchester City et qu'ils avaient fait une bonne finale.
Oui,
là, ils n'ont pas fait une bonne finale.
On peut tout à fait dire que Inzaghi, il a raté son dernier match avec l'Inter, oui. Lui et les joueurs. Mais enfin. La marque Inzaghi sur l'Inter sur 4 ans. Enfin, si on joue tout un match,
vous souvenez qui était l'entraîneur du Barça en 1994, qui a pris 4-0 face au Milan? Vous vous souvenez qui c'était?
Johan Cruyff.
On n'a pas résumé Johan Cruyff à cette défaite.
Non, mais malheureusement, mais c'était une autre époque, vous le savez, Bruno.
Non,
commentez-moi à l'époque.
Non, mais voilà, c'est un grand entraîneur. Si
mais c'est vrai que c'est
deux
c'est
finales de Ligue des Champions en 3 ans avec l'Inter.
C'est vrai que c'est une autre époque. Il y aurait peut-être eu des gens sur Twitter pour expliquer Johan Cruyff qui ne connaissait pas le football.
Oui, c'est possible.
Exactement.
Et qui ne connaissait pas Johan Cruyff, d'ailleurs. Probablement, sur Twitter en général, ils ne savent pas qui c'est. Bon, bref. Non, mais quand même, l'Inter, c'est un exploit d'avoir été en finale. Il faut dire les choses.
Sortir en début d'année, moi, je me souviens que vous les voyez champions d'Italie. Vous aviez dit ça dans Radio Foot, on pourrait retrouver.
Bon, c'est la meilleure équipe d'Italie de très loin.
Voilà.
Et ils n'ont pas été champions, ça a un peu arrivé.
Et on les voyait en finale quand même, souvent dans les.
Ils faisaient partie des favoris, oui, des
voilà,
quatre favoris.
Exactement,
des
ils l'ont
souvent
été.
Cités quand même.
Bah, ils se sont qualifiés automatiquement.
Mais ce qui demeure quand même un exploit de faire deux finales en 3 ans avec l'Inter, à l'ère du Real Madrid, de Liverpool, de Manchester City, de Guardiola.
Non, mais ils ont sorti Bayern et Barcelone. Ils ont sorti Bayern et Barcelone. C'est ce qui est un exploit quand même pour un club italien. Aujourd'hui, c'est dur. Hein.
Matteo, vous me parliez tout à l'heure, quand on préparait l'émission, d'une rumeur qui pourrait avoir un peu scié les jambes des joueurs.
Oui, tout à fait. C'est une rumeur qui a commencé à circuler hier soir, selon laquelle Simone Inzaghi, à la veille de la finale, aurait essayé de convaincre Nicolò Barella et Alessandro Bastoni à le suivre en Arabie Saoudite. Une proposition qui aurait créé des tensions entre l'entraîneur et ses joueurs, mais bon, pour l'instant, ce n'est qu'un bruit qui n'a pas été confirmé. Mais à mon avis, ça valait la peine d'en parler, car si c'est vrai, ce serait quelque chose d'assez grave.
Matteo,
tu crois vraiment à ça, toi?
Non, c'est pas possible.
Connaissant Simone,
je sais pas.
Mais il peut en parler le lendemain. Où est le problème?
C'est pas le genre. Bah,
écoutez, après avoir vu une équipe se faire écraser 5 buts à 0, je crois tout. Hein. Je crois que c'est vraiment possible.
Ah, en résumant comme ça, effectivement.
Matteo, mais quand même.
J'ai plus de limites dans la croyance.
Inzaghi, lui, il avait laissé quand même ce voile, ce doute, lorsqu'il avait été questionné sur la proposition, sur ces sirènes en or massif venues d'Arabie Saoudite. Il avait une réponse. Je crois que c'est vous qui m'aviez dit qu'il y avait un peu catastrophé les communicants du club.
Oui, parce qu'il avait en quelque sorte confirmé qu'il y avait un intérêt très sérieux de la part d'une équipe saoudite. On s'est demandé avec les autres confrères, est-ce que ça valait vraiment la peine de répondre de cette façon ou essayer de glisser, de faire en sorte que rien n'était dans l'air et que c'était, vous voyez, quelque chose comme que ça restait une rumeur. Et lui a dit non, c'est vrai, il y a un intérêt de la part de quelques équipes, voilà, même en Italie.
Ouais.
Donc ça a été surprenant cette réponse qui n'a pas plu aux dirigeants de l'Inter. Ils étaient devant moi, ils se sont regardés eux aussi.
Oui. Hervé, est-ce que vous pensez que, de toute façon, c'était inéluctable là, vu cette fin de saison, ce triplé qui finalement tourne à vide après 4 saisons, est-ce qu'il vaut mieux que Simone Inzaghi, là, il prenne l'air un peu loin?
Mais je peux tout à fait comprendre, il a fait 4 ans
magnifiques,
et puis voilà, c'est même pas la finale, la preuve, il avait déjà décidé d'y aller avant.
Mais il a quand même eu une longue conversation avec son président hier, Philippe.
Oui,
ça c'est pour la galerie.
Oui, c'est pour la galerie.
Pour parler de
la galerie.
Pour parler de la
plus longtemps. Comme Mourinho en 2010, il avait aussi décidé de sortir avant. Il savait très bien que son équipe était sans avenir. Et je pense que Simone Inzaghi probablement savait qu'il avait été au bout également avec cette équipe.
Et
que la finale devait être l'apothéose, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça.
Mais 4 ans, c'est pas rien. Rester 4 ans sur le banc. Alors bien sûr, vous avez Simeone, mais la plupart des entraîneurs, au bout de 3 ans, ils sont rincés, bouillis, cramés. Là, aujourd'hui, il a fait 4 ans dans un club dur, dans un championnat qui n'est pas simple, du très haut niveau. Il va très loin en Ligue des Champions. Il est allé au bout du bout. Alors en revanche, qui parle à ses joueurs la veille d'un match, ça, où il doit improbable. Être totalement obsédé par le match du lendemain, mais... d'un départ probable en Arabie Saoudite, mais quel intérêt il aura à le faire la veille, ouais, s'il peut le faire le lendemain.
Je vois pas. Okay.
Mathéo, il y a quand même une échéance là pour cette équipe, puisqu'elle est parmi les 32 sélectionnés pour le Mondial des clubs, qui débute le 14 juin, c'est-à-dire exactement dans 10 jours, et il n'y a pas d'entraîneur.
Ouais, mais
ils vont peut-être renoncer.
Ils vont prendre un entraîneur à l'essai.
Un no show.
Vous avez vu qu'il y a un mercato d'avant Coupe du Monde des clubs, c'est formidable. Vous du pouvez prendre des joueurs 10. Et les revendre le 15 juillet,
et
c'est génial.
Et ça compte
pas. Vous savez que ça compte pas si vous les revendez. Si vous les revendez, ça compte parce que vous savez que les joueurs sont limités à 2 clubs par saison.
Ouais, ouais,
donc
ouais.
Théoriquement, un joueur qui irait jouer la Coupe du Monde puis qui repartirait juste derrière.
Vous me dites qu'on a fait des lois handicap. Juste pour le Mondial des clubs.
Ah non, mais génial, génial. On a fait une loi pour le Mondial des clubs. Génial. Tout est autorisé. C'est pour ça.
Tout est autorisé autour du Mondial des clubs.
On peut croire n'importe quoi maintenant. Tout est possible.
Alors Mathéo, ils vont partir les joueurs sans entraîneur?
Non, ils auront un entraîneur en chair et en os et on le connaîtra très vraisemblablement d'ici à vendredi, car vous l'avez dit, un championnat du monde de club qui presse et qui a besoin qu'une équipe soit là avec son petit entraîneur, petit grand entraîneur. Et alors, pour les pronostics concernant le technicien qui remplacera Inzaghi, tourne en ce moment autour de Cesc Fabregas, vous l'aurez certainement lu. Mm-hmm. L'espagnol est un nom très en vogue auprès de Beppe Marotta, le président. Mais il faudra d'abord convaincre le président, le patron de Com, c'est-à-dire l'indonésien Mirwan Suwarso, l'homme le plus riche de Serie A. Notez bien, hein, l'homme le plus riche de Serie A. Voilà, il faudra le convaincre de laisser partir son entraîneur. Hier, l'agent de l'Inter, Pierre Orsiglio, s'est rendu à Londres pour discuter directement avec lui, mais il semble qu'il n'ait pas réussi à obtenir l'autorisation au transfert du technicien. Rappelons que pour Fabregas, le club de Com a déjà rejeté d'autres offres, comme celle parvenue de la part de la Roma et du Bayer Leverkusen. Mmh.
Nous, ici, on parle d'un autre nom, quand même.
Oui, bah nous, on a le nôtre.
Et c'est un italien aussi.
Et c'est un italien.
Alors, c'est un italien plutôt, puisque Fabregas est espagnol. De Zerbi, faut-il y croire?
Bah, si jamais ça ne se fait pas avec Fabregas, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Et De Zerbi, à un moment, il n'était pas hyper heureux à Marseille. Enfin, il avait dit à un moment, si on ne veut plus de moi, je partirai. Après, à la fin de saison, il avait laissé filtrer que Milan AC s'intéressait à lui. Enfin, vous savez.
Un peu dramaturge.
Il sort d'une saison qui est une saison correcte avec Marseille. Je dis correcte parce que c'est vrai qu'ils vont en Ligue des Champions, mais avec un nombre de points qui est très faible. Et par rapport à la concurrence, j'allais dire, une équipe qui n'avait pas de Ligue, qui jouait rien en semaine. Heureusement que le Marseille est quand même en Ligue des Champions à la fin de saison.
Mais ils y sont.
Mais absolument.
Ils y sont. Et oui, ils ont une saison en Ligue des Champions.
Mais
les attend,
si mais... on lui propose l'Inter... alors là, je ne sais pas. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais il pourrait avoir des envies d'ailleurs. Donc, ça pourrait entraîner un premier feuilleton marseillais aussi, sait-on jamais.
Ouais, bah, de toute façon, possible. À Marseille, vite, alors là aussi, hein, on peut tout croire.
Et puis, il faut aller vite, hein, parce que ça commence dans une semaine hein, ou dans 10 jours.
On n'avait pas écouté. J'ai dit dans 10 jours.
J'ai écouté, mais je voulais en être sûr. C'est pour ça que je voulais vous faire répéter.
Alors, continuons dans cette émission. Et on l'a évoqué, le nom de Francesco Acerbi qui n'arrivait plus à marcher, ou le vétéran hein, a avancé
d'après
sur
Karim
le
Baldé,
terrain.
Hein, je sais,
oui, mais on avait Salim Boumgali qui était au bord du terrain qui aussi avait quelques confidences. En tout cas, le symbole de cette équipe qui ne se résignait pas, en tout cas jusqu'à la finale, puisqu'on l'a vu en demi-finale inscrire ce but égalisateur assez incroyable. Il a été appelé en sélection et il a finalement renoncé. On va donc passer à la Squadra Azzurra. Éliminés de la Ligue des Nations par les Allemands, les Italiens joueront vendredi soir leur premier match sur la route du Mondial 2026. Ce sera face à la Norvège et donc le défenseur, appelé par Luciano Spalletti, l'Interis Acerbi, a refusé de se rendre en sélection sous le coup de la défaite, bien sûr. Mais s'il avance plus, on peut le comprendre.
Bah, c'est ça le problème, il est parti au garage, je crois.
Eh bien, écoutez, un des membres du staff, l'ancien gardien Gigi Buffon, il est intervenu et on n'a pas l'impression qu'il comprenne vraiment Acerbi.
À mon avis, le joueur ne dit pas non à Spalletti, mais à quelque chose de plus grand encore, l'Italie.
Spalletti, les anciens entraîneurs, les dirigeants de l'équipe nationale ou même moi ne sont ici que pour une courte période de leur vie, mais ils assument leur rôle avec beaucoup de dignité et d'honneur, sachant qu'ils représentent leur pays et sont tous bien contents d'honorer ce maillot azzurro.
La maglia azzurra e rappresentare appunto il nostro movimento.
Ça doit vous donner envie de chanter l'hymne italien, Matteo, après cette déclaration. Vous leur mettrez une note, hein, Matteo. Matteo.
Je suis un pire chanteur. Non, je préfère chanter la chanson d'Eric et Poveri. Sarà perché ti amo.
Ah oui, évidemment. Alors, Matteo, cette déroute milanaise, ben, finalement, elle perturbe aussi l'équipe nationale. Est-ce qu'on en parle beaucoup en Italie?
Ah, on en parle énormément et le parcours de la nationale vers la qualification démarre déjà avec une polémique, c'est pas vraiment.
Mais est-ce que Acerbi est un incompris?
Un signal très positif, hein. Mais bon, alors protagoniste encore une fois, lui, Francesco, lui avec un L majuscule, parce qu'on parle très souvent de lui, Francesco Acerbi, qui a refusé la convocation nationale et il l'a fait en envoyant un texto à Luciano Spalletti, geste qui a énervé le.
Ah oui, ça l'a tellement énervé qu'il a coupé le son.
Ils ont coupé les télécommunications en Italie tellement ils sont énervés.
Ça les a énervés. On va rappeler Matteo tout de suite. On a un problème technique.
Si, s'il l'a fait par texto, c'est déjà bien.
Mais
parce qu'il y en a qui font plus du tout.
Mais enfin, c'est les moyens modernes aussi. Enfin, je sais pas, il va
peut téléphoner quand même.
Oui.
Ça se fait.
Mais vous savez que les...
Surtout que si j'ai bien compris, c'est...
Le téléphone, ça sert à autre chose.
Non, mais si j'ai bien compris, il arrête l'équipe nationale tout court.
Il a 37 ans quand même.
Il a 35, c'est ça?
37, je crois.
37.
Oui, ah oui, 37.
Bon, il a 37 ans. Je trouve que
c'est pas scandaleux,
au lendemain, alors certes, la décision est peut-être un peu brusque, et puis il avait peut-être accepté a priori de venir, sauf que au lendemain de la déroute à Dominique.
Lui, en tant que défenseur, enfin, j'imagine un défenseur.
On peut
voir
tout à fait
comment...
imaginer, on peut tout à fait comprendre qu'à 37 ans, il a le droit d'arrêter, et surtout qu'il arrête avant une campagne. Il arrêterait juste la veille de la Coupe du Monde. Bon, on pourrait dire c'est
bizarre. Je pense qu'il n'arrêterait pas. Si c'était la veille
d'abord,
de la Coupe
il n'arrêterait pas.
On a retrouvé Matteo. Matteo, vous nous disiez justement que l'Italie ne comprenait pas. Et... Matteo ?
Oui, non. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, maintenant, on vous entend bien.
Et vous disiez que je disais que démarrer de cette façon une qualification pour le prochain champion du monde avec une polémique, c'est pas vraiment la chose meilleure. Et protagoniste encore une fois, c'est lui, c'est Francesco Acerbi qui a refusé la convocation nationale et l'a fait en envoyant un texto à Luciano Spalletti, geste qui a énervé le technicien qui est déjà quelqu'un de pas facile du point de vue caractère. Donc voilà. Et bon, on se demande pourquoi le défenseur de l'Inter a dit non à la squadra azzurra. Les raisons sont connues. Premièrement, il y a deux mois et demi, après le 3 partout de l'Italie face à l'Allemagne en Ligue des Nations, un journaliste italien avait demandé au technicien une explication de l'absence d'Acerbi dans les convoqués et Spalletti avait répondu qu'à 37 ans, un joueur ne peut pas se considérer comme un élément fixe de l'équipe. Pour Acerbi, ces mots ont été considérés comme un manque total de respect envers lui. Et en plus, entre les deux, entre Spalletti et Acerbi, quelque chose s'était déjà passé quand la saison dernière, l'entraîneur avait exclu le défenseur interiste après que celui-ci avait insulté de façon raciste le Brésilien du Napoli, Juan Jesus. Je sais pas si vous vous rappelez. Acerbi avait toujours nié toute accusation à cet égard, mais à la fin, il n'avait pas pu jouer avec le dossard de la squadra azzurra.
Oui. Philippe, c'est quand même... Alors, ça vient de loin, apparemment. Et finalement, nous ici, on aurait tendance à le comprendre, Acerbi.
Oui, mais après...
Il ne sent pas de faire ces matchs importants, parce que les Italiens...
Oui, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que ça aurait été peut-être plus clair qu'ils le disent avant, mais alors on peut aussi se mettre à la place du joueur, ne pas créer une polémique avant même une finale. Donc peut-être qu'il avait déjà décidé, si ça se trouve, il avait déjà dit « Bon, je vais pas refaire une campagne complète avec l'Italie ». Un an et demi, une bonne année de qualification, plus la Coupe du Monde. J'ai 37 ans, je vais pas aller au bout, je vais pas y arriver. Et en plus, apparemment, il y avait quelques frictions
Ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'en fait, moi, au départ, j'étais plutôt pour l'idée, pourquoi pas, je peux le comprendre. En fait, c'est qu'il y a des tensions avec son sélectionneur, tout simplement, parce que sinon, il l'aurait appelé avant pour lui dire ne me convoquez plus.
Il aurait téléphoné.
Oui, bon. Puis, en. en catimini. Vous lui passez un coup de fil, il dit ne me convoque pas, de toute façon, je ne viendrai pas, et puis il n'y aura pas eu de problème. C'est vrai que là, on sent qu'il y a un malaise entre les deux. Là, ça sent quand même la fin de carrière internationale d'Acerbi. Si, parce qu'ici, il attend le prochain entraîneur, ça va prendre.
Non, il reviendra à la prochaine Coupe du Monde.
Alors, cette Italie, les Italiens, ils font jouer les vétérans.
Oui,
hein,
mais 41 ans, c'est beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup.
Ouais. Cette Italie, en tout cas, on le sait, elle se bat aussi contre des fantômes. Ces deux absences en Coupe du Monde pour cette nation déjà quatre fois étoilée, contre la Suède en 2018 avec Gian Piero Ventura et puis en 2022 avec Roberto Mancini. Deux énormes absences. Les joueurs en ont conscience et c'est ce qu'assure Giovanni Di Lorenzo, actuel capitaine des Napolitains, les champions d'Italie.
Nous voulons à tout prix disputer cette Coupe du Monde. Nous n'avons pas été capables de nous qualifier lors des deux dernières éditions. Et puis cette compétition me manque énormément, et cela vaut aussi pour mes coéquipiers. De plus, les mots de notre entraîneur nous ont profondément marqués. Il nous a rappelé que les enfants italiens de moins de 10 ans n'avaient jamais vu leur équipe nationale disputer cette compétition. C'est donc notre responsabilité. Il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre cet objectif primordial, car ce serait vraiment incroyable de ne pas participer trois fois de suite. Nous sommes tous très concentrés, conscients que beaucoup dépend de ce premier match. Nous voulons gagner et nous qualifier à tout prix.
Matteo, ces Italiens, est-ce qu'ils sont encore hantés par ces deux échecs ou ils sont passés à autre chose avec Spalletti?
Non, c'est l'angoisse pure. Moi, je suis papa d'un enfant de 9 ans qui a jamais pu assister à un champion du monde avec l'Italie. Donc, je suis en train encore de lui parler des Cabrini, Chirea, et puis du Buffon.
Matarazzi.
Il était avec nous avant, du Totti. Je me suis arrêté là. À partir de 2006, j'ose plus parler de champion du monde. Non, cette année, il faut y aller avec, sans doute, sans aucun doute. Faut pas sous-estimer les adversaires, surtout cette Norvège qui pourrait faire peur, mais bon, l'Italie doit avoir la conscience d'être l'Italie, d'être la squadra azzurra. Parce que si on commence déjà à avoir des soucis dans le premier match, parce que de l'autre côté, il y a Erling Haaland, où il y a il y a Alexander Sorlot ou le Martino Degar, ils sont beaucoup hein, là,
ils commencent à être beaucoup,
avoir peur. Non, il y a un autre un terrain offensif,
ça y est, moi je commence à trembler pour l'Italie.
Ça commence à faire peur. Non, c'est une belle équipe, mais voilà, nous sommes l'Italie, il faut cette fois ne pas rater, sinon ils ne vont plus retourner chez eux cette fois-ci. Je crois que les Italiens ne pardonneront plus, ils ont déjà pardonné beaucoup
Une troisième absence. Bruno, est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur de la Norvège?
La Norvège fait pas peur à grand monde depuis longtemps, donc je vois pas pourquoi
l'Italie
aurait peur.
Mais elle a gagné ses deux premiers matchs déjà, d'éliminatoire.
Vous avez vu le groupe? L'Estonie, la Moldavie, Israël,
Norvège-Italie.
Et en plus, avec cette Coupe du Monde, tout le monde y va, la Coupe du Monde. Et tout le monde y va.
Il n'y aura pas beaucoup plus d'Européens, il y aura surtout plus d'Africains.
Il y aura 16 Européens, ça fait 3 places de plus. Si l'Italie n'est pas dans les 16, c'est vrai que c'est dramatique.
Là, c'est que ça devient.
Si
l'Italie n'est pas top 16 Européens.
Déjà, ils n'étaient pas dans les 13, c'était déjà désespérant.
Ouais. Mais là, quand même, face à la Norvège, en fait, est-ce que c'est plus mental?
Mais je ne sais pas, parce que déjà, juste la Norvège, on met toujours en avant Haaland, Odegaard, mais en dehors des deux-là, il
n'y
a pas grand monde dans l'équipe. Défensivement, c'est faible, au milieu, c'est assez faible.
Quelques Vikings.
Ça commence petit à petit à gagner quelques matchs, mais ce n'est pas contre les grandes nations. Non. Après, l'Italie, c'est surtout que là, on sort effectivement de cette finale de Ligue des Champions, des dernières compétitions, de la négativité autour de cette sélection, Spalletti, Acerbi. C'est bizarre. Et puis d'une génération qui n'arrive pas à pousser offensivement. Ça manque de talent offensif, quoi.
Philippe, le dernier Euro, c'était pas non plus une catastrophe, l'Italie. Elle revenait de loin, d'absence, justement.
Son seul coup d'éclat, c'est 2021, quand ils ont gagné l'Euro, de manière tout à fait inattendue, au milieu d'un marasme total. Mais malgré tout, non, l'Italie est quand même... la sélection nationale est quand même en crise, singulièrement.
En manque de talent.
en manque de talent, avec beaucoup de joueurs, beaucoup aussi, de joueurs âgés, une équipe et notamment offensivement beaucoup un manque de talent criant.
Ah oui, c'est ça le problème. Ouais. C'est quand on voit Lautaro Martinez Thuram à l'Inter, la Juve envoie un Moiskin qui est un des buteurs du championnat italien. Moiskin, c'est pas un extraordinaire joueur, c'est un bon joueur, mais bon, on l'a connu un peu au PSG. Quand même.
Bon, ben Matteo, on aura l'occasion de vous rappeler pour savoir si l'Italie va mieux après les matchs qu'elle disputera durant cette trêve. Merci beaucoup, Matteo.
Merci Annie, et bonne soirée à tous.
À bientôt. Ciao, ciao.
Et Forza Italia.
Claro.
Malgré tout.
On continue dans Radio Foot avec Sahel Fit, Millie Rose, toujours belle.
C'est le soir, j'aimerais tellement la vie éternelle, toujours belle. S'être avant-soir, les cours de DS, pas besoin d'être dans le sensationnel. Elle est venue un jour de pluie dessiner un soleil dans mes nuits les plus sombres. Elle dansait dans mes rêves, elle a mis de la couleur et des nuances à mon nom. Mais la lumière n'est jamais éternelle. Donc, pourquoi l'amour le serait? Elle danse toujours dans mes rêves, mais s'éloigne le dos tourné.
Pour des filles comme toi, j'en ai fait plein des insomnies. Pour des jours meilleurs, tu sais, j'aurais donné ma vie. Mais là, j'en ai plus trop envie. J'suis perdu dans le vide, bloqué dans la nuit, cassé par les lights de la ville. Oh baby girl, l'humain est vil. Même moi, choisirais l'ours. Tous pour soi, un pour tous. J'en ai fini de rêver, j'crois qu'il est temps d'attailler, d'oser le faire. Car tu sais qu'elle est belle quand je repense à nous. Quand je repense à nous, quand je repense à toi. Elle est belle quand je repense à nous, quand je repense à nous, quand je repense à toi.
Mais baby, le temps est passé, j'ai plus la force de recoller. Mon cœur que tu brises encore et encore. Je crois qu'il est temps de s'arrêter, non. Je t'aime, ce son est scellé. J'aime bien moins l'odeur de ton parfum, Dieu.
Je voulais tout, je voulais tout, je voulais tout. Je voulais tout, 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 tout de suite. La vie est courte, courte, donc cours très vite. Bisous, sous le bruit de la pluie. On a fait l'amour tout, toute la nuit. Et on s'est quitté pour tout, toute la vie. Sache que je t'aimerai pour toujours, comme ça c'est dit. Oh, tu voulais ma mort, ta beauté m'a donné la vie.
Elle est belle. Quand je repense à nous, quand je repense à nous, quand je repense à toi.
Tu sais qu'elle est belle, tu sais.
Elle est belle. Quand je repense à nous, quand je repense à nous, quand je repense à toi.
Millie Rose, que vous pouvez retrouver sur la playlist RFI Musique, ça s'appelle Toujours Belle.
Glory, glory, man united. Glory, glory, man united.
Rouge à cette équipe nullissime. Manchester United, vous vous rendez compte? Non seulement ils font une spectaculaire saison blanche, mais ils vont en tournée et ils jouent contre une équipe de l'Asie du Sud-Est. Où on appelle ça Oasis All-Star. Moi, je croyais que c'est une équipe de rugby. Mais qu'est-ce que je vois? Ils tournent avec la balle 64% de possession et tirent 19 fois rien. Donc tout le monde bat Manchester United.
Vous avez tous reconnu Rémi Ngono, bien sûr, qui distribue son carton. Bah, je ne sais pas sur quoi on peut trop le contredire, mais on va en parler quand même.
Là, c'est difficile. Ça.
Leur entraîneur, en tout cas, l'a avoué, déroute après déroute, cette saison de Manchester est une saison en enfer. Hein, ça pourrait être ça, il y a un film comme ça, qui s'appelle comme ça. En tout cas, c'est la pire des 3 ou 4 dernières décennies. Ils sont 15e de Premier League. Et défaite donc en finale de la Ligue Europa, où ils avaient pourtant fait une campagne assez intéressante. Privé d'Europe la saison prochaine, malgré ce dur constat. Une bonne nouvelle peut-être pour ces Diables Rouges, Bruno Fernandes dit Alors, comme l'écrivent nos amis de SoFoot, tout le monde n'est pas Simone Inzaghi. Et donc, lui, il reste au club. Il n'a pas répondu aux propositions saoudiennes de Al Hilal, un contrat de 120 millions d'euros, je ne sais pas pour combien de mois ou combien d'années, mais en tout cas, c'était assez intéressant. La tournée asiatique, elle aussi, a tourné au fiasco. Ils ont joué devant des tribunes vides, notamment à Hong Kong, alors que Manchester United est très aimé dans cette région du monde. Écoutez ce TikToker, c'est pas Rémi, c'est un autre. Lui aussi, il se lâche un peu enclin au désespoir.
Mais c'est une dinguerie. Même quand on sait pas qui joue, ils perdent. Et en plus, regardez contre qui ils ont perdu. Une sélection d'Asie du Sud-Est. Un club de régional en Asie. Il y avait des joueurs d'Indonésie, Timor oriental. Je savais même pas que c'était un pays. Vietnam, Birmanie, Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ils ont même inventé une Nouvelle-Guinée encore Papouasie. Ils ont réussi à perdre 1-0. Vous voyez les appréciations là de ton prof d'anglais quand il disait « On touche le fond, mais on creuse encore. » C'est Manchester United.
Il est drôle, voilà. Ah, honnêtement, hein, très drôle.
Bah, bien
très
sûr,
drôle.
Beaucoup d'humour.
Très drôle.
Alors, on leur fait pas de cadeau à cette équipe qui ne fait plus rêver. Qu'est-ce qui se passera bientôt, Bruno? Est-ce qu'elle peut se relever?
Je sais pas.
On m'avait dit que vous aviez début de réponse.
Non, mais de la 15e place, évidemment. United ne fera pas 15e la saison prochaine. Ils seront bien, bien plus haut.
Ils peuvent faire 18. Hein.
Juste une petite parenthèse sur la tournée, sur la tournée en Asie du Sud-Est. C'est quand même.
Mais ils ne voulaient pas la faire, je crois.
Organisation désastreuse des dirigeants.
Ils sont partis le lendemain du dernier.
Ça fait partie du business aussi. Ils récupèrent 8 ou 9 millions d'euros.
Beaucoup d'équipes partent en tournée.
Oui, oui. Mais quand vous sortez d'une finale d'Europa League, vous perdez contre une autre équipe anglaise, vous avez été humilié complètement toute la saison. Vous n'avez pas envie d'aller sur le terrain pour continuer à jouer dans un match qui ne sert à rien, si ce n'est à gagner de l'argent pour les propriétaires. Mais après...
Pour votre employeur, quand même.
Oui.
Et donc pour vous.
Il est un peu pour vous, mais bon.
Un peu, quand même.
Ah oui. Mais en fin de saison, comme ça, j'ai du mal à comprendre ce type de tournée. Mais effectivement, ils sont dans un état assez désastreux. C'est la saison de tous les records en termes de défaites, de points, de buts marqués et concédés. C'est la pire saison en 50 ans, quelque chose comme ça.
Et on a quand même pas, parce qu'ils ont fait de la D2, hein, Manchester United.
Oui, mais en termes de points de Première Ligue, je parle. Hein.
Si tu t'arrêtes à la Première Ligue, oui.
Non, enfin, premier championnat d'Angleterre. Ils sont désastreux.
Ils sont descendus parfois en D2.
Oui, mais c'était des saisons à 22 équipes.
Oui, peut-être. Oui.
Pas 20 équipes. Admettons. Mais ils sont en grande difficulté, la part des dirigeants, les propriétaires américains, qui ne gèrent plus vraiment le club. Mais quand Ineos est arrivé, ils ont découvert un club dans un état désastreux, à l'image du stade qui fuit quand il pleut, un centre d'entraînement qui est plutôt
aux
attendus.
Oui, mais alors bon, ils ont supprimé la cantine. Je ne sais pas si c'était
non, mais il y avait des dépenses
hallucinantes,
hallucinantes sur ce club, qui était largement, le train de vie était largement au-dessus de ses moyens.
Oui, mais
et
ça
évidemment, ça
a
contaminé le sportif. Parce qu'il y a eu des grands entraîneurs qui sont passés. Mourinho est passé, Van Gaal reste un grand entraîneur, il est passé. Ils ont tous fait à peu près le même constat. Certains ont remporté des trophées. Ce qui fait que United était maintenu un peu à flot. Mais le dernier titre, il date de quand? Le dernier titre de champion d'Angleterre, c'est 2013. On est en 2025.
Donc là,
c'est-à-dire que le petit garçon de Matteo ne pourrait pas avoir vu Manchester United et les petits Anglais.
C'est ça qui est terrible. Et ils ont des problèmes financiers. Ils sont surveillés par le fair play financier, européen et anglais. Donc ils sont dans une situation désastreuse. Comment ils vont pouvoir s'en relever? Ruben Amorim, qui est arrivé, a fait pire que le prédécesseur.
Mais il reste.
Mais il reste, c'est logique, parce qu'il a été recruté pour reconstruire, rebâtir. Ils sont en train de le faire déjà sur le marché des transferts.
Alors, ils viennent d'acheter un Brésilien, là, à Wolverhampton,
Matheus Cunha, qui est pour une bonne recrue.
Énorme, la somme, non?
C'est énorme, c'est un joueur de Première Ligue.
C'est le marché anglais. C'est le marché interne en Angleterre.
Les transferts
comme ça,
de clubs anglais à clubs anglais sont toujours très élevés. Ils sont sur Mbeumo, qui a fait une super saison avec Brentford. Ils sont sur des bons joueurs. Mais moi, il y a quand même un risque, c'est que United devienne un peu le Liverpool qui a... progressivement, à partir des années 90, régresser, décliner.
La
seule différence entre Liverpool...
Ils sont bien plus graves que ce qu'a pu connaître Liverpool. Liverpool n'est jamais tombé à ce niveau-là. Hein.
Non, jamais à ce niveau-là, mais ils sont trouvés dans le ventre mou.
Oui, ventre mou.
Là, cette saison était particulière.
Mais là,
la seule différence, c'est que Liverpool, entre-temps, ils arrivaient à gagner des Ligues des Champions. Et United, on est très très loin aujourd'hui. Ils n'arrivent même plus à se qualifier pour la Ligue des Champions.
Philippe, quel est votre regard sur ce club qui a été repris en main donc par Ratcliffe, là, qu'on avait vu à l'œuvre du côté de Nice, sans qu'on soit très convaincu, mais après, ce n'était peut-être que Nice. Est-ce qu'il a les moyens, je ne parle pas que des moyens financiers, mais de secouer cette institution.
Les moyens financiers, oui, ça, il n'y a pas de doute, mais... Là aussi, la chose est très ambiguë, parce qu'il a repris la gestion du club l'année dernière déjà, l'été dernier. C'est Jean-Claude Blanc d'ailleurs qui avait joué un peu les pompiers de service pour qu'il y ait un peu de continuité dans le club, etc. Bon, ça n'a pas généré une saison fabuleuse, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais en fait, Ineos n'a même pas la majorité du club.
Oui.
Ils ont racheté une partie du club, il y a un accord futur, mais qui est pas fait. Donc il y a toujours les Glazers là non
tout
plus.
Tout ça ruisselle sur le club.
Et je pense que la tournée en Asie, footballistiquement, elle n'a aucune importance, mais elle révèle quand même que comment voulez-vous que des hommes qui sont dans le staff technique ou dans ou sur le terrain, qui entendent toutes les semaines que de toute façon tout va changer, tout le monde va partir, etc. Comment voulez-vous qu'ils jouent au foot, quoi ? Enfin, ils pensent à rien. Ils n'ont aucune vision de ce que peut être le club demain. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'on peut échouer. En football, on peut échouer momentanément, on peut avoir des saisons difficiles, mais là, on ne voit pas la trace, l'ombre d'un projet, on ne voit rien. On ne voit même pas sur quoi les joueurs ou techniciens peuvent s'appuyer pour continuer à être motivé par cette équipe.
Et Hervé, ce qu'on sentait aussi, et ce que souvent nous racontait Bruno, c'était...
c'est souvent intéressant ce qu'il raconte en plus.
Non, mais c'est une marque aussi, puisque à notre époque, on a parlé de la marque du PSG et tout ce qui est... Et cette marque, on a l'impression, justement, en Asie, où ils étaient très forts, ce maillot rouge, très symbolique en Asie, et en plus, cette équipe qui sortait d'année Ferguson très, très élevée. Et là, tout d'un coup, y a des supporters en Asie qui le racontent, qui sont moqués, parce que toutes les semaines, on arrive au bureau, et bah oui, ton équipe a perdu, les gens les regardent moins et ne vont plus voir.
Ouais, c'est ce qui est peut-être le plus inquiétant. L'image, parce que c'est vraiment le club phare, le club monde, d'une certaine manière. Ils pouvaient partir en tournée partout, ils faisaient le plein, ils allaient aux États-Unis évidemment, ils allaient en Asie. Et là, visiblement, donc ils font des matchs devant personne.
Ils font plus recettes.
Ce qui paraît incroyable quand vous êtes Manchester United. Et mine de rien, si vous regardez un peu la topologie un petit peu aujourd'hui du football mondial, vous vous rendez compte qu'il y a deux clubs qui ont un peu vampirisé tout. Ils sont Barcelone et Real Madrid, liés à la guerre entre Messi et Ronaldo. Et puis, ça a enclenché quelque chose. Puis, il y a Mbappé qui arrive, etc., etc. Et des clubs comme Manchester United, qu'on croyait inattaquables, on pensait qu'ils seraient toujours en haut. Et bien, aujourd'hui, ça commence à baisser. Il ne faudrait pas que du côté de City, il se passe un peu la même chose. Ça va peut-être être aussi plus dur. Liverpool reste une grosse place forte, mais de la même manière. C'était une place forte à une époque. Ça a un peu baissé. Là, ça revient d'une manière logique, j'allais dire, avec les résultats.
Manchester United, c'est encore plus grave. Parce que budgétairement, même quand ils étaient dans les années largement post-Ferguson, où ils n'avaient pas de titre ou autre, ils étaient toujours dans le club qui avait le plus gros budget. Bon, Chelsea faisait
ils avaient des grands noms quand même comme joueurs.
Oui, aussi.
C'est l'image, la force de Manchester United. Moi, chaque fois qu'on allait à l'étranger, c'était un club.
United a baissé.
C'est un des trois clubs sur les 4-5 dernières années qui a le plus dépensé sur le marché des transferts.
Ouais,
et on se dit, mais où est passé l'argent en fait ? Et ils ont une équipe qui est très moyenne. Et en plus de ça, ils se sont rajouté un problème avec Ruben Amorim, qui veut absolument jouer avec une défense à 3, des pistons, une attaque un peu particulière. Et donc ça, c'est des postes très spécifiques. Donc il faut recruter des défenseurs centraux, ils en ont plein, mais ils ne sont pas bons. Il faut recruter des pistons, c'est un poste particulier, ils n'en ont pas. Donc il a fallu en chercher. Et voilà, ils galèrent à construire
une équipe. Et en plus, il insulte les joueurs aux limites. Donc,
et c'est, voilà, sa communication est assez désastreuse.
Elle ne ressemble pas à celle d'un grand club.
Et même vers l'extérieur, quand il avoue sans arrêt, oui, bon, de toute façon, c'est la pire des saisons, du genre, on passe. Mais je crois qu'il a eu deux victoires, c'est ça, depuis qu'il est arrivé en championnat.
En première ligue.
Non,
mais c'est pas loin de ça. C'est pas loin de ça.
Je crois, après, il gagnait en Ligue Europa et ils sont arrivés invaincus en Ligue Europa. Mais je crois qu'il a eu très, très peu de victoires. Il a eu quelques matchs.
Non, parce qu'il est venu assez tôt. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas quelqu'un qui est arrivé.
Non, il est arrivé à la trêve hivernale, en janvier.
Novembre,
à peu près.
Assez tôt,
assez tôt. Il est venu assez tôt.
Il avait abandonné le Sporting.
Mais il y a un problème avec Amorim. N'oublions pas, quand il est venu, il avait quand même une aura incroyable. Parce que ce qu'il faisait au Sporting Portugal, rien à dire.
D'ailleurs, ils sont champions sans lui.
C'est ce que j'allais dire. Voilà, je voulais prolonger. C'est que finalement, ils sont quand même champions sans lui.
Il y a des doutes. Il y a déjà des doutes sur lui.
Le problème, c'est que Bruno l'a bien expliqué. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous êtes obligé maintenant de restructurer votre équipe en fonction de lui. Et alors, si ça marche pas, il va falloir reprendre un autre entraîneur et restructurer.
C'est pour ça qu'il y a très peu de clubs, de grands clubs européens qui jouent avec une défense à 3, parce qu'ils nous disent tout, c'est très spécifique, très particulier. Chelsea a mis du temps à se remettre de sa défense à 3.
Il y avait l'Inter.
Et l'Inter.
Voilà, ça boucle l'émission. Voilà. Ça marche.
Alors, c'est parfait. Vous avez bien fait.
Mathéo, s'il vous plaît.
C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs, de l'avoir animé avec brio. Et on se retrouve demain dans Radio Foot. Merci à tous.